d'une façon ou d'une autre. Donc, ne peut être élu que celui qui est en disposition de l'être pour des raisons qui sont aujourd'hui extraordinairement lourdes et extraordinairement complexes, qui sont des raisons institutionnelles, financières, historiques, etc., etc. Par conséquent, moi je dirais simplement ceci, si par démocratie on entend en réalité un régime d'association libre, largement égalitaire et qui a permis de surmonter les entraves imposées à tout le monde par la division du travail, démocratie et communisme veulent dire à peu près la même chose. Et j'accepte cette définition du mot. Si par démocratie on entend simplement la forme d'État représentatif tel qu'il existe aujourd'hui, on peut dire que cet État est peut-être meilleur que d'autres formes d'État, je ne l'ai jamais nié d'ailleurs pour ce qui me concerne, mais on ne peut absolument pas dire qu'on puisse s'en contenter. On ne peut pas s'en contenter parce que les conditions contemporaines de l'exercice du pouvoir politique sont des conditions extraordinairement restrictives quand on les regarde dans le réel.
Voilà, avec Alain Badiou, ce numéro de La Basse, j'y suis. L'hypothèse communiste a été saluée dans la presse, par exemple dans Le Point, lorsque le livre est sorti en janvier 2009 par Alain Duhamel. Et oui, qui disait, voilà un texte bref et dense, impérieux et provocateur, savant et utopique, peut-on mieux dire ? Alain Badiou, je voudrais qu'on parle un peu de votre univers, votre monde à vous, qui est le monde d'intellectuels. Les livres que vous avez publiés ces temps derniers, qui font suite à une quantité d'ouvrages, de romans, de pièces de théâtre, d'ouvrages de philosophie ou d'ouvrages plus polémiques, nous ramènent un peu à la scène intellectuelle des années 60. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est pour Badiou, contre Badiou, Badiou est stalinien, Badiou est maoïste. C'est-à-dire qu'on s'engueule d'une façon beaucoup plus intéressante grâce à vous. Je voulais vous remercier au moins. au moins de ça. Qu'est-ce qui fait que la scène intellectuelle est devenue, avec le temps, si fade et dépourvue d'enjeux ?
Écoutez, je crois qu'il faut pour cela nous situer à la fin des années 70, au début des années 80. C'est une histoire réelle. Les années 60 et les premières années 70 ont été marquées par une situation, je crois, sans précédent, de rapport entre la plus exigeante recherche intellectuelle et théorique et l'effervescence politique, populaire, massive, la plus grande. Mai 68, de ce point de vue-là, c'est un phénomène très singulier. Mai 68 est ce qui a suivi. C'est un phénomène dans lequel, tout le monde l'a remarqué, sont entièrement soudés l'un à l'autre des aspects ordinairement très séparés, à savoir l'engagement intellectuel le plus sophistiqué, le plus radical, et l'action militante la plus énergique et la plus vivante. Vers la fin des années 70, et surtout au début des années 80, ces deux éléments soudés se séparent, se disjoignent de nouveau. Mais l'effet de cette disjonction produit une situation pire que celle d'avant, si je puis dire. C'est-à-dire, l'effet de cette disjonction ramène une bonne partie des intellectuels à une fonction consensuelle, c'est-à-dire une fonction qui n'est plus une fonction critique, qui n'est plus une fonction animée par l'idée d'un autre monde possible, comme c'était encore le cas, malgré tout, des grands intellectuels critiques des années 60. C'est l'apparition des intellectuels médiatiques, des intellectuels installés dans l'appareil de communication générale, des intellectuels finalement ralliés au pouvoir, que ce soit le pouvoir de gauche ou le pouvoir de droite, en la matière n'a pas de conséquences très importantes du strict point de vue intellectuel. C'est la même chose. Dès qu'on est du côté du pouvoir, on est du côté du pouvoir. Et se crée ainsi une sorte de classe intellectuelle, à mon avis, atone, largement serve ou spécialisée dans ses domaines propres, mais qui ne se mêle plus beaucoup des affaires de la cité. On a donc eu ce que moi j'ai appelé à l'époque un abaissement des intellectuels. Et puis au bout d'un certain temps, une vingtaine d'années tout de même, c'est déjà pas mal, au fond l'idée que l'intellectuel aurait peut-être une autre fonction que celle de peaufiner, de polir les catégories idéologiques dominantes, de les faire reluire, peut-être il peut faire autre chose et réapparaît. Et ça, je le vois, parce que professionnellement, je suis en contact avec toutes les strates successives de la jeunesse, si je puis dire. Et je vois bien qu'aujourd'hui, cette jeunesse intellectuelle est au fond divisée en deux parties. une partie probablement encore majoritaire qui a le principal souci de se caser dans la société, où c'est devenu difficile, hein, il faut reconnaître aussi, où c'est devenu assez dur, assez bloqué. Les issues sont pas très ouvertes. Et puis une autre qui voudrait réintégrer l'histoire, quelque chose comme ça, qui cherche une porte d'entrée pour réintégrer le mouvement véritable de l'histoire. C'est pas facile non plus.